answer, because I also am going to talk about Robbie Nag, but although with a different purpose, which is which was visual in your case, and in the case of Janet Winterson, there's a very clear feminist slant to the adaptation of Gulliver's Travels in this contemporary novel. So this, I start with a quick summary of the novel itself, for those of you who have not read it. So the novel was published in 1989, and it covers the period from the execution of Charles I to the restoration of Charles II. And you've got two first-person narrators. The first one has no name. She's called the Dog Woman. And she's a loyalist ogress whose purpose is to fight the Puritan rule under Cromwell. And the other narrator is her foster son, Jordan, who travels with John Tradescant. And so the two narratives are very different from one another, because the dog woman's narrative is the one which is historical, whereas Jordan's narrative is a travel narrative, but it's more on the side of fantasy, because he tells of imaginary travel. So he actually travels with John Tradescant, but his narrative is narrative of imaginary travels. Especially, so his whole quest would be about, you know, right in the middle of the book, you've got this, the story of the 12 dancing princesses. So on his journey, he meets with the fairy tale princesses from Grimm's fairy tale, the dancing princesses. And so his quest will be to find the missing 12th princess. Okay, so you've got this differentiation between history and fantasy. And then at the end of the novel, there's another twist, because in fact, those two 17th century narrators are revealed to be the fancies of two contemporary alter egos of the Dog Woman and John Tradescant. So at the end, you get the character of Nicholas, who is Nicholas Jordan, who is a Navy officer and who imagines himself as a traveling companion to John Tradescant, and an unnamed woman who is an ecologist activist and who fantasizes herself as a giant writer of wrongs and who wants to blow up a chemical factory. So, as you can see, with, of course, the character of the Dog Woman and the tradition of the debonair giant, and with the travel narrative, the imaginary travel narrative of Jordan, Janet Winterson is clearly rewriting Gulliver's Travels. And so she's rewriting Gulliver's Travels according to two major generic paradigms, which you mentioned, of course, which is satire and travel writing. And she uses those two generic paradigms also in the characterization of the two protagonists, with the Dog Woman as an Alison and Jordan as a traveler. And so the split in the narrative construction of the novel, where you pass from the historical period to this contemporary world where the characters fantasize themselves as 17th century characters, it echoes the split of Gulliver himself, which Janet Winterson interprets as a split, she says, because she wrote 10 years after she wrote Sexing the Cherry in 1999, she wrote an introduction to the Oxford Classics editions of Gulliver's Travels. And this introduction really sheds light on her purpose in writing Sexing the Cherry. And so she, in this introduction, she explains that at the end of book four, so The Voyage to the Houyhnhnms, Gulliver becomes a modern hero because she says what happens in book four is the disintegration of self and narrative, which turns Gulliver into a postmodern hero. So I'm quoting from the introduction, as she talks herself of the disintegration of self and narrative. And I quote again, part four is always disintegrating, just as the personality of Gulliver disintegrates from the straightforward adventurer to the postmodern hero confronting himself. So, Sexing the Cherry reads as a fictional transposition of Winterson's interpretation of Swift's text when Gulliver, I quote again the introduction, finds that everything shifts. And this novel is very much about how everything is shifting. And so, Winterson's postmodernist text splitting the time-space continuum and challenging, of course, the authority of history and narrative, enacts the shift from Gulliver, the reliable witness, to Gulliver, the unreliable narrator, through the generic reworkings of the canon and the rewriting of the hero and the self through a different characterization. And so it's interesting that, in a way, her novel mirrors the generic disorder which was already present in Gulliver's Travels, but she inflects that towards a reflection on gender, especially, which is why I was talking of a feminist slant. Indeed, among the many splits in her narrative, you've got a challenge to the conventional splits between gender identity markers. You've got to keep in mind that the context when the novel was written in the 1980s was a context when, you know, the Bakhtinian concept of the carnivalesque was resurgent. And the novel itself uses carnivalesque features, obviously. The historical episodes of the Great Fire of London and the plague are used in a carnivalesque way in the novel, especially when Winterson rewrites history by making the dog woman as the original arsonist. She is supposed to be the one to put London on fire because she wants to clean the people of the sin of murdering the king. She is a loyalist, the dog woman. So she interprets the plague as a sign of corruption, and she decides conveniently to set London on fire. So precisely this characterization of the dog woman as a giantess echoes the feminist theories of the time, which derived from the Bakhtinian concept of the carnival, those theories about the grotesque body and the monstrous woman as a challenge to social constructions of gender. And for those of you, maybe this, I don't know if there are students here who are interested in that, you can read Mary Russo, The Female Grotesque. So in this characterization of the dog woman, you find direct intertextual references to Gulliver. Oh, she also quotes, of course, because there's this whole literary tradition, she quotes Rabelais and Voltaire. But she quotes Gulliver, and of course the quotes are reworked in a feminist context. For instance, she quotes from the passage when Gulliver in Brobdignag is defined as lusus naturae, a freak of nature, by the Brobdignagian scholars. I quote from Swift's text, "I applied myself to the king and assured his majesty that I came from a country which abounded with several millions of both sexes and of my own stature, where the animals, the trees, and houses were all in proportion." So Janet Winston's going to keep that all in proportion and adapt it to her character, the Dark Woman. When the Dark Woman has a failed sexual experience with a man, because of course she's so big that he gets stuck inside her when she squeezes her muscles, and the man nonetheless persists in trying to pleasure her, but he fails because he says, I quote from Winterson's text, "I cannot take that orange in my mouth. It will not fit. You are too big, madam." And then the Dark Woman looks at her clitoris and she wonders, "It seemed all in proportion to me." So that's how she reworks the actual text, Swift's text. And so the introduction to that episode of the clitoris determines the Dark Woman, as you can imagine, as a castrating figure. She keeps dismembering the Puritans whom she fights, and she keeps biting off men's members. And I quote, just to give you an idea also of the tone, because of course what's very funny is that she's a figure of punishment, of chastisement, but she does this with a very funny candor, which affiliates her with this tradition, this literary tradition. So I quote, "Whilst Jordan was away, I discovered from my time in the brothel that men's members, if bitten or otherwise severed, do not grow again. This seems a great mistake on the part of nature, since men are so careless with their members and will put them anywhere without thinking." So she's that castrating figure. And immediately after, so this was the introduction to the episode, and immediately after the episode, she narrates the murder of her own father when he tried to sell her for a freak exhibit. So again, there's the connection with Gulliver and the freak of nature. And so she's characterized as, and which is why I was talking of those shifts. Okay, she is a woman who's characterized as a phallic figure, obviously, and she's a parricide murderess. And there's another evocation of Gulliver when she tells about Jordan as a baby, and I quote from her text, "When Jordan was new, I sat him on the palm of my hand the way I would a puppy, and I held him to my face and let him pick the fleas out of my scars." And so, of course, this is reminiscent of the passage at Brobdingnag, you know, when Gulliver can see, you know, the beggars who are crawling with lice. And he says, and this is the quote from Swift's text, "I could see distinctly the limbs of this vermin with my naked eye, much better than those of an European louse through a microscope." And he also sees the tumorous breast of the beggar woman. And you know, that's the breast, which recurs three times in Brobdingnag, with, you've got the to evoke Gulliver's horror of the female body. You've got first the feeding breast of the nurse, and he says, "No object ever disgusted me so much as the sight of her monstrous breast." And there's the sexual breast of the maid, which echoes Gulliver's own feminization in book two, because he's made into a toy and into a sexual object by the maids. And so Winterson, she uses the same gender switches as the ones experienced by Gulliver to characterize a protagonist, but of course the aim is different. And so she uses the so that's interesting, because she uses references to Brobdingnag to make a parallel with Gulliver when he's humiliated as a freak. However, when she depicts the size of the Dark Woman, she refers rather to Lilliput when Gulliver is admired and revered for his size. So she characterizes the Dark Woman, her size and her uncommon strength, by using the same comparative techniques as Swift in Lilliput to give the measure of her, so that she uses the element that is used for the comparison is meant to emphasize the disproportion. For instance, as we said, her clitoris is like an orange, or her sweats are is compared to waterfalls, or her skirt is compared to a sail, and she's also bulletproof. She can dispatch easily a dozen men. Again, I just quote because I like to give you a sense of the humor of the text. I ran straight at the guards, broke the arms of the first, ruptured the second, and gave the third a kick in the head that knocked him out at once. The other five came at me, and when I had dispatched two for an early judgment, another took his musket and fired me straight in the chest. I fell over, killing the man who was poised behind me, and plucked the musket ball out of my cleavage. So she's indestructible. And so in her characterization, she's a combination of book one and book two, so that a mixture of admiration and objection, monstrosity. So that Winterson reworks Swift's critical scrutiny of the female body, which was designed to chastise, well, very much in Swift, but maybe that's something we can discuss later on, to chastise the vanity and the wiles of women. I'm thinking also, for instance, of his poem, The Lady's Dressing Room. And instead, Winterson celebrates the out of bounds, the departure from the norm. And so in opposition to this phallic figure who interferes in the public world of men, Jordan is characterized as feminine. And while he is traveling with a very famous explorer, he retreats into the privacy of his traveling fancies, which read like fairy tales and myths. And so again, he embodies the same gender switch that Winterson perceives as characteristic of Gulliver's in book four, which is a sign of Gulliver's split self. That's her interpretation. Jordan's split is similarly internal. I quote from the novel, he talks of the gap between my ideal of myself and my pounding heart. And this gap is materialized by his journey because he's torn between the standard masculine model of hero worship. When he says, I want to be brave and admired and have a beautiful wife and a fine house. I want to be a hero and wave goodbye to my wife and children at the docks, like Gulliver as the straightforward adventurer. But his quest, the quest that he tells us about, is really about his quest for the dancing part of himself, and this is also a quote, which is represented by his pursuit of the 12th princess. And so this shift in the self is echoed in the two characters. The shift in the self is echoed in the shift in the canonical paradigms that Winterson uses and rewrites in the novel. So Winterson interprets Gulliver's shift in book four from observer to participant as symbolized by a narrative shift from travelogue to diary. She says in the introduction to Gulliver's Travels, I quote, valiantly he tries to write up his strange split world as a logbook, but it reads like a diary. So she transposes this into her novel, because Jordan says, I quote, I've kept the logbook for the ship meticulously, and I've kept a book of my own. And for every journey we've made together, I've written down my own journey and drawn up my own map. So clearly there's the same reference as there is in Swift's text to two different books. So as readers of Sexing the Cherry, we're given access to the second book. So the journeys, the imaginary journeys that he made, which recall, of course, Gulliver's own travels in the fanciful worlds of the four books. And so Wenderson reworks the two books that were already in Swift's text. You've got the faithful account and the distorted account. But the difference, of course, is that in Swift's text, you've got this playful game, as you know, with the paratext, with the game with truth and lies, with the publisher celebrating Gulliver's proverbial candor. It's when he says it was as true as if Mr. Gulliver had spoke it. While Gulliver blames the publisher for, in the letter to Simpson, for disfiguring his work and making him say the thing which is not. And so Swift's novel was designed as a mystification, ironically imitating the conventions of travel writing, like providing maps and delineating a horizon of expectation with the title Gulliver's Travels into Several Remote Nations of the World. So this is Baudouin Millet wrote his thesis about this, the strategies of denial of fictionality that were designed to legitimate fiction at a time when fiction was accused of falsity. Well, Winterson, she replicates the same game with truth and lies, but of course she gives it a different emphasis. Because as opposed to Gulliver, Jordan claims to be a liar, and he keeps insisting on his own unreliability throughout the text. And Winterson, even, you've got passages from the text that are labeled lies, and they are numbered. Lie number one, lie number two, etc. And Winterson's lies aim at rehabilitating fiction in a period when simulacra have invalidated it as a mere fallacy. So she uses the same strategy in another novel, which was the Passion. And the leitmotif in the Passion is, I'm telling you stories, trust me. So by questioning the validity of historical narrative, as well as of realist writing, Winterson stresses the importance of storytelling in the construction of the self. So the focus on subjectivity means that she challenges the norm, and of course, as we've seen more particularly, polarized gender roles to allow for a new, freer redistribution of the said roles. And so, of course, the stance is a political, feminist political stance, because rewriting narrative conventions is meant to have an impact in reworking social constructs. And so that's how you can account for her use of satire. She replicates the conventions of classic satire, of Swiftian satire, especially. So the dog woman, as I said, is this chastiser figure, and she's clearly affiliated to the Juvenalian tradition of punishment. This is also true of the stories of the 12 princesses. So, of course, the 12 princesses tell Jordan about the happily ever after of their marriage, which, as you can guess, did not turn to be very happy. And so they all take revenge on their husbands in the satirical tradition of especially the debasing metaphor, with the husbands turned into animals, or with their virility debased into femininity. And of course, they are physically punished by the princesses for their vices and for the wrongs that they've done. And so the dog woman is the same kind of vengeful figure. So she's a sort of, again, she's a mixture, because she's at the same time she's the Alazon type, because of as you've heard from the quotes, because of the candor and the joviality of her speech, but she's also evidently a figure of vengeance, and she disguises herself as an executioner. So she's just as she she's a combination of feminine traits like the nurturing mother and phallic attributes, she's also a combination of oration and Juvenalian satire. Again, replicating the split in books 1 and 2 of Gulliver's Travels, and also in books, the split between, you know, book 1 and 2 and books 3 and 4, the first two being more oration and the last two more Juvenalian. And so as a mass although she's a mass murderess, she candidly depicts herself as a paragon of virtue on several occasions, which makes for the comic tone of the novel. So far, I'm just giving you some instances of her tone. For instance, she spares the lives of some guards after she has massacred a score of them. And here's what she says: "I will not kill you now," I said, "for I am tired after my journey and wish only to settle in my own house." At my magnanimousness, they were abashed, as even sinners must be in the presence of virtue. Or, for instance, when she spares some Puritans, she says, "Out of charity, such as I am famed for, I left one or two to be crippled." And because of a lack of education, she explains, "I have only little learning." She also understands everything quite literally. So the debasement of meaning to a literal sense, again being a classic reductive satirical device. So, for instance, when she's preached to follow Lex Talionis to chastise the Puritans, she starts pulling teeth out and gouging out eyes while praising the preacher's knowledge of the Bible. And she says, "It is a thing to have learning and so be able to interpret the scriptures," while she's actually doing a massacre of it. And so she's a public figure of threat. She invades the male privacy of the Puritans because she chases them to the brothel to expose their vices. And so in you've got this very Grandguignolesque scene when she dresses as an executioner to punish, I quote, "those poor-faced, flat-buttered zealots," committing the act of sodomy in a brothel, and so she dismembers them with an axe while they shit themselves with fear. So this is a grand guignol because it's actually very funny. I can read it to you later if you want. And so you've got, of course, you've got this, again, this traditional satirical metaphor derived from anatomy, which is the metaphor of dismemberment. And precisely this literal dismemberment turns to metaphor in the second part of the book, when the contemporary alter ego of the dark woman fantasizes herself as a giant dismantling world organizations in order to mend the world. And so the shift in the narrative at the end is a way to demonstrate, and I quote from the novel, that sometimes the women get to be heroes too, with this alter ego of the ecologist woman. And I'm nearly done, but I wanted to mention something which is, I think, interesting in relation to how Winterson uses satire, and she uses classic satire, is the time and the context when the book was written, which was the Thatcher years. And there's a potential satire here of Thatcher, who, if you remember, was portrayed herself as an executioner in a cartoon from 1988 in reference to the Gibraltar killings. And the dark woman, with this ambiguity of phallicism, is, I think, evocative of the equivocality of Thatcher's personality herself, whose, I'm quoting an article by Jacqueline Rose on Thatcher, and she talks of Thatcher's, I quote, ambiguous sexual self-fashioning, which she depicts as a composite between the phallic figure of the Iron Lady and the banal housewife managing the purse strings of the nation. And there's something, I think, in the character of the Dog Woman that also reads as a satire of Thatcher herself and of Thatcherism at the time when the novel was published. So as a conclusion, this novel is a feminist reworking of satire and travel narrative, which goes to show how the dialogue with the texts, in that case Gulliver's Travels, can lead to fruitful reconfigurations. And of course I'm referring here to the title, Sexing the Cherry, refers to grafting. So it's a botanist reference in the book, and they try to graft. They create this new cherry, and it has no sex. So fruitful reconfigurations through intertextuality, swift reread with a feminist purpose. That's it.
Thank you very much. Maybe I can sit here. As I said, we can take questions in French or in English. Are there immediate questions or burning questions you'd like to ask before we start the discussion itself?
Not a question, just a quick remark. As you were wondering about the title of the Gulliver Mickey, could it be perhaps like taking the Mickey out of Gulliver? Like Gulliver Mickey, Gulliver joke, Gulliver...
It could be. Could be. I don't know how old that expression is. If it was current.
It sounded a bit strange, and how you were showing that.
I wonder if it's not just the rhythm of it, Gulliver Mickey, Gulliver's Travels, and it's a way of kind of identifying the cartoon on two levels. But it might be, I'm not sure it's actually taking the Mickey out of Gulliver's Travels.
No, but like, in the sense of joke, like, yeah. Since it's a.
Yeah, it could be. Yeah, I need to look at whether the expression was used in 1930s America. I don't know. Thank you.
Ce que je vais faire peut-être, puisque Anne vient de nous rejoindre, retenu par un conseil de laboratoire.
Qui s'est... Excusez-moi.
Non, c'est nous qui sommes désolés qu'il y ait eu ce chevauchement d'horaire entre le séminaire et un conseil de laboratoire. Ça ne se reproduira plus. Des décisions ont été prises. Donc voilà, donc qu'une œuvre comme Les Voyages de Gulliver, Gulliver's Travels, se prête aussi bien à un petit film émouvant comme celui de Méliès, à l'aube du cinéma. Un dessin animé de Walt Disney des années 30, hein, 34, c'est ça ?
34.
Oui. À une sorte d'apologue stalinien, hein, très intéressant que tu nous as montré, ou une réécriture féministe comme celle de Wetterson qui a écrit une si belle préface, hein, vous y avez fait allusion, si belle préface à Gulliver's Travels qui s'appelle The Wound, je crois, hein, c'est ça ?
Oui.
Qui a vraiment, ça fait penser que. Parfois, les écrivains ont peu de pages, que ce soit Winterson ou Orwell ou Borges sur Swift, vont très vite au cœur des choses, là où il faut des monographies de plusieurs centaines de pages pour arriver à dire la même chose. Parfois, hein, la blessure du héros moderne. C'est vraiment un très beau texte. En même temps, on a, si j'ai bien compris, deux versants un peu différents dans ces réécritures et adaptations. On a discuté la notion d'adaptation. Une qui utilise le versant ou le potentiel mythique de Gulliver's Travels, qui peut finalement se prêter à l'aventurier, le changement des échelles, etc., sans que c'est un rapport très très direct avec l'histoire, c'est un peu prétextuel certains épisodes, et de l'autre le potentiel qui existe aussi chez Swift, le potentiel physique, hein, de la corporéité même, le corps monstrueux, le corps trop grand, trop gros, répugnant, attirant, le corps sexuel, le corps scatologique. Et finalement, on voit que la réécriture ou l'adaptation peut activer dans le texte des remettre en circuit du sens de façon totalement différente. Hein. Il n'y a pas grand rapport entre l'apologue stalinien avec ses prolétaires là identiques hein, que le journaliste du New York Times a dont il s'est moqué et la réécriture féministe qui vient toucher quelque chose quand même de profond chez Swift, c'est-à-dire son rapport extrêmement paradoxal et ambigu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler ça aux femmes.
Oui, ben je me disais que c'était peut-être quelque chose justement où les spécialistes là de Swift pourraient apporter leur lumière, parce que non, j'ai pas eu l'occasion de particulièrement travailler ce versant-là, mais effectivement, hein, elle c'est là où elle est. C'est vraiment une réécriture, elle se sert du texte, là, vraiment, elle y fait référence, elle le connaît très bien, et effectivement, elle utilise voilà, toute la dimension scatologique, et dans la veine satirique, dans la tradition de la satire classique, ce qui est, je trouve, très intéressant, mais où le but... Le but n'est plus le même. Donc sur les femmes, avec les femmes, Swift.
Le corps, la fascination-répulsion pour le corps voilà. Féminin, hein, qu'il y a chez Swift. Il y a un autre écrivain, un Américain, enfin, russo-américain, qui a fait la même chose, qui a utilisé ce potentiel, c'est Nabokov, dans un roman qui s'appelle The Enchanter, qui parle de... Je vous donnerai la référence si ça vous intéresse. Donc écoutez, le débat est ouvert, c'est tellement riche qu'on peut aborder les questions de la vérité, du mensonge et de la fiction, hein, de la fiction au XVIIIe siècle, qui n'avait pas de statut et qui n'a évidemment un, avec Whittleson, mais aussi la question de l'adaptation. Est-ce que l'adaptation finalement est une œuvre non pas secondaire mais seconde, qui est une autre œuvre, qui ne se substitue pas à la première, et qui la relie, mais qui n'a pas à être vue en dépendance par rapport à elle, mais quand même quelque chose d'autre, hein. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui les adaptations, notamment cinématographiques, filmiques, etc. Voilà, on peut s'orienter dans le sens que vous souhaitez.
Vous posez la question sur les adaptations. Tu as parlé de Spencer-Lefels en disant que c'était extrêmement rudimentaire à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations plus contemporaines?
Oui. Ben, les effets spéciaux maintenant ne sont pas du tout. Enfin,
oui, je sais, mais justement, voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de données des.
Alors, ce que j'ai dit, si tu veux, pour les versions du début du siècle, c'est que je trouve très impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec peu de moyens techniques. Maintenant, ce qu'ils arrivent à faire très très facilement, c'est des changements de dimension sur le même écran, enfin des choses.
Mais c'est convaincant.
Oui, les histoires ne sont pas toujours convaincantes, mais les effets spéciaux sont beaucoup plus aboutis que ce qu'on a pu voir dans la version de 1902, par exemple. Oui, non, il y a.
Est-ce qu'il y a un film canonique pour.
Don't ask me. Moi, j'ai un peu de mal avec les adaptations.
Tu as parlé d'adaptation.
Non, mais en général, je n'ai pas tout vu parce qu'il y en a quand même beaucoup.
J'ai vu.
C'est très riche. Je commence à travailler là-dessus. Les adaptations que j'ai vues s'éloignent systématiquement du texte Swift, mais je pense que c'est lié à la nature du texte. C'est pas possible de reproduire Gulliver's Travels à l'écran. Ça fonctionne à plusieurs niveaux, c'est ironique, c'est satirique, et puis quand on fait un film, on veut une histoire. Donc Gulliver's Travels, l'histoire, quelle est vraiment la trame par rapport aux éléments satiriques, aux épisodes, enfin, je pense que c'est très compliqué à mettre en scène sous la forme juste de « Here is the story of Gulliver ». And I'll leave you to decide what it means. Ça ne fonctionne pas, donc il y a toujours des adaptations, soit d'une partie, soit les versions très récentes.
En général, c'est que Lilliput, éventuellement peu Lilliput et Brobdingnag, et après, c'est non représentable. Hein. Un petit peu, peut-être, l'île volante, etc., on peut essayer. Alors le dernier voyage avec les chevaux rationnels qui parlent et l'Iaouz, personne à ma connaissance n'a pu représenter ça au cinéma. Alors,
je me demande si j'ai pas vu une adaptation à la télé où il y avait les Iaouz et les chevaux, mais
oui, ça tourne court très vite parce qu'on ne peut pas les faire.
Oui.
Il y a Amélie, oui.
Justement, sur cette question de la représentation de Gulliver's Travels, je suis complètement par hasard tombée sur un article il y a quelques jours dans le journaliste dans Comédia. Qui parlait du nouveau Gulliver russe, qui par hasard a été diffusé pour un gala de charité pour les veuves et les orphelins, organisé par l'Association des journalistes français. Il était tout à fait de public, c'est un peu curieuse. Mais un autre journaliste, j'ai oublié le nom, qui promouvait en fait régulièrement dans ce journal un cinéma satirique français, qui estimait que le cinéma satirique n'existait pas, qu'il faudrait le développer. Et voilà, justement, dans des formes un peu nouvelles de cinéma dont on ne parle plus tellement aujourd'hui, et qui disait justement que ce serait à la France, curieusement, de faire des voyages du Lézard, ce qui n'a jamais été fait. Et peut-être que, justement, dans cette période où on se posait plus de questions sur la forme du cinéma, il était plus envisageable de faire quelque chose qui n'a pas été fait qu'aujourd'hui. Voilà.
Ce qui est frappant, c'est que la plupart des adaptations cinématographiques sont pour des enfants.
Oui.
Voilà, c'est le côté exotique, aventure, géant, nain, et puis l'aspect satirique est très très souvent mis de côté. Oui.
Parce qu'il y a une esthétique visuelle et même auditive très forte dans le texte, enfin, c'est assez graphique comme image. Ça, on peut comprendre que ça puisse facilement être porté à l'écran.
Oui.
Alors, pour des enfants, dès qu'on se retient d'aller dans des choses plus fines, plus ironiques, satiriques, mais au niveau du spectacle, que ce soit pour l'oreille, pour l'œil, le texte déjà offre beaucoup. Mais après, ça,
ça caractérise plusieurs des textes qui se prêtent comme ça de multiples réécritures ou adaptations, que ce soit Robinson, Don Quichotte ou Gulliver, il y a un élément d'immédiateté visuelle. Hein. Robinson seul sur son île, Don Quichotte grand avec un pendant plus petit. Il suffit de le représenter ne serait-ce que sur une mague et on reconnaît Don Quichotte, la silhouette célèbre de Don Quichotte. Et donc c'est vrai que dans Gulliver, il y a cet aspect visuel immédiat qui a évidemment intéressé beaucoup les cinéastes, mais en même temps Swift n'a jamais pensé qu'il pouvait écrire pour des enfants, hein. C'est quelque chose qui est paradoxal de la réécriture. Jamais il aurait imaginé, je crois, que ça pouvait se prêter à des...
Et en même temps, il y avait cette fameuse citation
qu'on
entend souvent, From
the Nurse, oui, c'est, ça veut dire qu'on peut l'appréhender à des niveaux extrêmement littéraux comme à des niveaux de métaphoriques. Et ça peut intéresser aussi bien le gouvernement en termes de satire politique que un public plus simple.
Moi, sur cette citation, je ne sais pas qui lit dans The Nursery. Si c'est l'enfant dans The Nursery qui lit ou si c'est The Nurse in The Nursery qui est en train de lire. Parce que plusieurs... Swift, il évoque plusieurs reprises des maids qui sont en train de lire des novels et du coup le palais prend feu. Enfin,
oui,
The Nursery, je ne sais pas si ça veut dire des jeunes et des personnes plus âgées ou des personnes qui seraient des domestiques. Et j'ai jamais bien décodé parce que effectivement, on pense que ça veut dire enfant.
Non, c'est l'univers du jeu par rapport à l'univers sérieux de la politique. Oui. Hein, from the nursery to the cabinet. D'autres questions, remarques? Oui,
Laurence. Dans mon prosaïque, j'ai sur mon engin infernal vérifié Taking Mickey et apparemment ça date effectivement des années 1930.
Ah.
Donc, maybe you got something. Et pour ma part, quand tu as évoqué Gulliver Mickey, moi j'ai vu un petit peu comme si Gulliver était synonyme de voyageur. Gulliver Mickey, de la même façon qu'on pourrait avoir Builder Mickey ou Sailor Mickey.
Oui,
Le voyageur à travers les nations, les mondes, l'explorateur, celui qui découvre.
Sont adjectif.
Voilà.
Mais quelqu'un qui voyage, non pas dans le monde réel, en fait, mais ça manque d'imaginaire, oui.
Mais ça veut dire.
Pour ce qui concerne les adaptations, alors, l'intervention va être extrêmement vague, je m'en excuse, mais j'avais vu l'année dernière, quelque chose qui m'avait bien intéressé, un cas de. Compositeur, interprète de chansons dans les années 1980, qui avait donc porté plainte contre un groupe qui avait soi-disant plagié leurs chansons en n'en respectant pas l'intention première. C'était une chanson d'amour, on en avait fait quelque chose de grotesque, etc. etc. Donc c'était une reprise, mais c'était une reprise qui déformait l'intention initiale, comme on le voit, c'est souvent le cas des adaptations de Gulliver. Et c'était passé devant la justice aux États-Unis. Et le verdict avait été finalement complètement à l'encontre de ceux qui portaient plainte, et qui disaient que justement, toute adaptation était une sorte d'hommage, ça on le sait, mais en même temps qu'elle était là aussi pour faire vivre cette chanson qui en fait n'avait jamais été connue de personne, pour la faire vivre et la mener à d'autres publics et où elle a connu un autre succès parce qu'elle était beaucoup plus populaire, plus amusante, plus ludique. Et quelque part j'ai retrouvé ce cas vraiment contemporain des années 1980 dans le milieu de la musique avec ce qui se passe avec Elefa depuis maintenant, presque le début.
Sauf qu'on n'a même plus besoin de ces adaptations-là pour que Gulliver soit inconnu d'un public qui n'était pas visé au départ. Parce qu'il me semble.
C'est ce qui est connu, plus que le texte de
Swift. Oui.
Mais toujours au prix d'un malentendu ou d'une incompréhension sur le texte initial. Je pense que peu de personnes qui ont entendu parler de Gulliver savent qu'il y a 4 livres. Hein, on en voit 2, mais on n'en voit pas 4. D'ailleurs, dans les éditions de poche, enfin, enfants, il n'y en a que 2. J'avais une question pour vous, si vous permettez. Je ne sais pas si vous serez d'accord. En vous écoutant, ça m'est venu quand vous avez parlé des mensonges, les lies, hein, que dans le texte, Winterson exhibe en quelque sorte. Hein, lie one, lie two. Et d'une certaine façon, alors à la fin du XXe siècle, elle renoue avec ce qui est le sens originel de la fiction. Parce que du temps de Swift, vous avez rappelé la thèse de Baudouin Millet sur le déni de fictionnalité, hein, que l'on trouve dans toutes les préfaces. On commence par dire « ceci n'est pas une fiction, ceci est vrai, soit j'ai trouvé un manuscrit, soit un vieux monsieur m'a raconté ». Enfin, il y a toutes sortes de stratégies. Pourquoi ? Parce que la fiction est quelque chose de péjoratif. Hein. Fiction veut dire « lies », et aucun artiste, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ne revendiquerait le mensonge comme esthétique, comme catégoristique. Le mensonge, c'est juste immoral. C'est quelque chose à proscrire. Et ce n'est que plus tard dans le siècle que la fiction va acquérir ce statut esthétique, cette dimension esthétique. Je suis intéressé de voir qu'à la fin du XXe siècle, Winterson retrouve le sens originel de la fiction en disant « ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est bidon, c'est des mensonges. A pack of lies », renouant finalement avec le sens originel du mot « fiction ». Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais si vous êtes d'accord avec ça, qu'elle retrouve finalement en réécrivant ce que Swift veut éviter, c'est-à-dire la fictionnalité assumée.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a... on peut en discuter, c'est mon interprétation, c'est qu'elle veut renouer un pacte, justement, avec le lecteur. Ce qui est crucial en littérature contemporaine par rapport à où le pacte de Swift avec le lecteur est très différent du pacte que Winterson essaie de renouer. Et là, on est dans justement, et c'est là où l'intertextualité a un rôle à jouer. C'est que le lecteur, il a justement un vrai rôle dans ce pacte qui est un rôle d'interprétation. Et de nouer un dialogue avec le texte lui-même. C'est ça que, quand elle dit « I'm telling you stories, trust me », c'est cette confiance accordée à la lecture, c'est une manière de renouer un pacte de lecture qui est, à mon avis, le fruit du développement de toute la théorie de l'intertextualité dans les années 70. Et je pensais alors aux adaptations. Ma question, ça serait, est-ce que c'est parce que très souvent c'est des adaptations pour enfants, ou est-ce qu'il y aurait une autre raison qui est systématiquement, je pense, escamotée justement toute la dimension sexuelle?
Je pense que c'est parce que ce sont des adaptations pour enfants.
C'est essentiellement pour cette raison-là. Et dans la propagande marxiste, pareil, ça n'apparaît pas non plus.
Ah, il n'y a pas de sexe.
Ça n'intéresse pas le prolétariat.
Non, non.
Ça le détourne de sa mission historique.
Hein. Yeah. There is no sex. Non. Et même, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette scène que l'on voit systématiquement où Gulliver est attaché dans le texte de Swift. Tout de suite après, il dit « Oh, j'ai un problème !» Ils sont obligés de laisser uriner sur le côté. Et ça, on ne voit jamais dans les images qu'on voit partout de Gulliver attaché sur le littoral avec des petits messieurs qui lui grimpent dessus. On ne dit pas « And a few minutes later, he said, could you just move aside ?» C'est rigolo parce que dans le texte de Swift, c'est vraiment tout près.
Oui.
Et dans toutes les adaptations, ce qui vient juste après disparaît complètement. Oui, c'est dans Jack Black, oui. Qui est
un peu plus trash.
Qui est très trash. Ouais. Ouais. Moi, j'étais intriguée parce que tu as parlé, Mélie, de Swift's novel.
Oui. Ah, ça, c'est... Bah, c'est... non, comment on l'appelle ?
Mais
bah, oui, c'est un hybride. Alors, effectivement, travel narrative, confession, il y a aussi un peu de confession. C'est, mais de la même manière, et là aussi, ça fait écho, hein, c'est, ça aussi, c'est un espèce d'hybride. Hein. C'est, j'ai essayé de vous le décrire, mais c'est très difficile à décrire parce que on a donc ces deux narrateurs, on a au milieu l'histoire des princesses qui se rajoutent. Alors on a des marqueurs énonciatifs aussi sous la forme de dessins. Hein, Jordan, c'est un ananas parce que c'est le premier à avoir ramené un ananas, comme c'est l'explorateur. Et la femme au chien, évidemment, c'est une banane hein, avec la dimension phallique. Quand ils sont en... quand ce sont leurs alter-ego au XXe siècle, les fruits sont coupés. Voilà, la banane est coupée. Alors bon, évidemment, il y a aussi toute la thématique des tous les démembrements, etc. Il y a, ça aussi, ça se réfère à tous les rois, Charles I, on coupe la tête, tout Cromwell, Compan, etc. Et puis il y a les princesses aussi qui ont un marqueur énonciatif qui est encore différent. Donc c'est pareil, c'est un espèce d'hybride. Dedans on a des contes intégrés, des histoires dans l'histoire, on a des mythes. Elle raconte le mythe d'Artémis qui se fait violer par Orion. Enfin bon. Et donc là aussi il y a une parenté avec Gulliver dans l'hybridité des genres qui fait que oui effectivement oui j'ai même pas réfléchi, en fait, j'ai utilisé le terme de novel, mais en effet, la question se pose.
Ben, j'y ai pensé parce qu'on parlait de pacte de lecture. Il me semble que le pacte de lecture n'est pas le même lorsqu'on lit un novel. Mm. Il y a cette idée que l'on peut, sur laquelle on peut revenir, de willing suspension of disbelief. Et quand on lit un texte satirique, ben, il ne faut pas suspend your disbelief parce que si on le fait, ben, on passe à côté de ce qu'il y a en dessous. Il ne faut pas se laisser berner par l'histoire. Il me semble que novel et un texte comme Gulliver's Travels n'ont pas le même pack de lecture.
Puis, oui. Non, j'aurais dû dire Swift text.
Mais c'est ce que j'ai du mal à l'identifier. Quand je disais Swift book, Swift imaginary voyage, Swift travel tale, c'est difficile de le
catégoriser. Ouais.
Je me disais peut-être que justement le pack de lecture évolue, place du point de la réception, il évolue avec les époques, les lecteurs de Swift, le lecteur russe de 1930 ne va peut-être pas chercher les mêmes choses que le lecteur de 2017, et donc chaque adaptation, que ce soit filmique ou littéraire, est avant tout une interprétation du texte, et cette interprétation varie à
Oui. Si on fait rétrospectivement du mot roman un synonyme de fiction narrative,
oui,
rétrospectivement, hein, c'est-à-dire vu après deux siècles, trois siècles de fiction narrative romanesque. Oui, c'est un roman, mais en termes historiques et en termes de la position de Swift par rapport à la littérature de son temps, non seulement c'en est pas un, mais c'est une critique du roman en tant que mode illusoire de fiction qui suppose que justement qu'on passe par-dessus toute vraisemblance au nom du réalisme. C'est-à-dire qu'il dénonce finalement la fraude ou l'escroquerie qu'il y a chez ses contemporains, comme Defoe par exemple, à présenter comme des histoires vraies des textes qui sont totalement fabriqués. D'ailleurs, au début de Gulliver, c'est une scène célèbre, hein, il se moque de Swift se moque de Defoe, qui dans Robinson raconte qu'après avoir enlevé tous ses vêtements, Robinson arrive jusqu'au rivage et après dans ses poches il trouve tout un tas de choses. Simplement Defoe avait oublié qu'il avait fait se déshabiller à la page avant, et donc il y a tout l'inventaire des poches de Gulliver est une moquerie de Defoe. C'est-à-dire qu'en réalité il inverse les rôles. Si je simplifie un peu, il dirait le vrai réaliste ce n'est pas le roman réaliste, c'est moi. C'est-à-dire qu'il montre un homme en morceaux, une histoire qui est totalement fantasmagorique par moment. Ça, c'est la réalité. Alors que ce Defoe qui passe 27 ans sur une île, ce Robinson qui passe 27 ans sur une île déserte et qui revient chez lui comme si c'était rien passé, qui retrouve son environnement familial, personnel, sexuel, etc., sans la moindre trace, sans la moindre blessure, comme dit Robinson, ça, pour suivre, c'est de l'escroquerie pure et simple. Et donc l'homme qui est atteint, qui ressent le trauma de ses voyages, pour lui c'est la réalité. Et l'homme qui ressort enrichi par ses voyages, ça c'est la fiction. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Galvez n'est pas un roman. Maintenant, dans un sens large, oui. Dans un sens large, oui, ça reste une écriture qui a à voir avec le roman. Sauf que Gulliver n'est quand même pas un personnage. Hein. Par exemple, aucune fois dans le texte, il est mentionné. Il n'y a personne qui lui dit « viens voir Gulliver, comment ça va Gulliver ?» Il n'est pas mentionné. À tel point qu'on peut s'interroger sur ce cas possessif du titre. Les voyages de Gulliver sont les voyages qu'a accompli Gulliver. Parce que personne ne l'appelle comme ça, jamais. Ou est-ce que c'est les voyages que raconte Gulliver? Est-ce que c'est ça le véritable sens du cas possessif, mais qui ne désigne pas un personnage qui s'appelle Gulliver? Il y a une distorsion immédiate entre le désignateur onomastique et le personnage dont on raconte l'histoire ou les histoires, qui d'ailleurs parfois à qui il n'arrive rien, comme dans le livre 3, qui est Gulliver. Donc c'est pour ça que le terme de roman est problématique, et le terme de novel encore plus, parce qu'il est plus spécifique en anglais qu'en français pour Gulliver. Après, c'est des questions d'étiquetage, hein, il suffit de.
Oui, j'étais en train d'essayer de me souvenir. Il faudrait que je re-regarde du coup dans la préface, comme en Winterson, parce que comme ça me vient pas. Elle parle des book one, book two, etc. Mais je sais pas si elle utilise un mot en particulier ou pas pour désigner le texte de Swift. Je regarderai parce que là, comme ça, je l'ai pas en tête. En revanche, là où elle rejoint Swift, c'est aussi sur cette même distanciation vis-à-vis du réalisme. Chez Winterson, c'est très fort. Elle ne veut absolument pas. Elle est contre le roman réaliste. Et bon, bah, ça se voit, hein, puisque c'est effectivement très, 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 très particulier. Et l'autre parallèle qu'on peut faire, c'est comme vous disiez, Gulliver n'est jamais nommé dans le texte. Et The Dog Woman, elle a perdu son nom aussi. Elle s'appelle pas. Elle le dit, hein, I don't remember my name. They called me the Dog Woman, quelque chose comme ça. Et bon, en plus, c'est un nom qui renvoie à l'animalité, donc.
En anglais, Dog Woman, c'est bitch.
Oui, je sais pas si elle l'a entendu comme ça.
Non, dog woman, bitch, c'est female dog. Qu'est-ce que c'est, Dog Woman?
Pourquoi choisir Dog Woman dans ce contexte de démembrement très sexuel?
Oui, peut-être que oui, peut-être que c'est oui, pourquoi pas, ouais, bitch.
Je sais pas, j'ai pensé à ça tout de suite
quand j'entends. Des interventions, d'autres remarques que les étudiants n'hésitent pas à intervenir. C'est aussi pour eux que nous sommes réunis.
Ben moi je pense à l'effet des deux avant, l'effet en fait pour les marxistes, parce qu'ils voulaient communiquer une idée contre les bourgeois, contre les rois, tout ça. Finalement, on a vu que ce nom était plus charmant. Bon, ça, c'est ce que le deuxième avait dit.
Puis, après, c'est ce que le journaliste avait dit.
L'autre livre, en fait, c'est vrai, peut-être c'est un livre pour un livre féministe. Mais en fait, ce personnage est tellement sadique et dégradant que je vois les gens qui vont lire ça et vont dire oh, merci.
Ah non, c'est drôle. Enfin, je sais pas, j'espère que vous l'avez montré avec les citations, mais c'est très très drôle. Elle est très attachante. C'est vraiment la tradition des géants.
C'est horrible. J'ai jamais vu un livre aussi horrible.
C'est l'émission du message et la réception.
Ah, je modifie cette perception. C'est très drôle. C'est vraiment la tradition littéraire du géant Candide. Donc c'est pas du tout elle démembre joyeusement.
Non, c'est pas, vous n'êtes pas réceptif. C'est un genre qui a ses lettres nouvelles qui est le grand guignol. C'est à la fois le guignol mais l'effrayant. C'est ça le grand guignol, c'est pas le guignol.
Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est vraiment comique, hein. Le ton est très jovial. Comme Gulliver d'ailleurs, c'est drôle.
Oui,
je n'ai pas réussi à transmettre l'humour, mais vraiment.
Moi, ce que je trouve frappant, c'est la violence, même si c'est drôle, parce que dans Gulliver's Travels, la violence, elle est toujours suggérée. Enfin, il y a peu de scènes vraiment violentes. S'il va se passer ça après, bon, on va vous massacrer ou on évoque des choses.
Il y a mal l'artillerie quand même.
Oui, oui.
la description de ce que fait le canon sur les corps humains.
Oui. C'est vrai.
Ouais. Non, mais c'est évoqué, c'est pas une scène du livre.
Non, il n'y a pas de description.
C'est au second degré. Oui. Oui.
Alors que là, tout est amplifié.
En revanche, il y a des descriptions corporelles qui font écho, qui sont très, très, très fortes dans Gulliver's Travels. C'est assez. Les seins abdominaux, c'est quand même très frappant.
Le cancer en gros plan.
Oui.
Vous avez fait allusion au pouls, à la scène du pouls. Mm. Et en fait, il faut savoir que Hook avait, donc quelques décennies avant, avait publié des planches. On venait d'inventer le microscope, il montrait des pouls en gros plan. Je vous ai montré aux étudiants, peut-être s'en souviennent. Donc, évidemment, un pouls grossi, ça ne fait pas le même effet qu'un. Hein? Et donc, il joue évidemment sur ces échelles, aussi bien avec l'infiniment, enfin le petit que le grand. Et c'est le petit, si on change juste l'échelle, sans changer du tout la nature, la morphologie, merci. En changeant juste la proportion, c'est une autre réalité qui apparaît. Et la réalité, c'est aussi une question de taille. Et donc, l'être humain, selon qu'on modifie sa taille, ben, soit c'est le géant gentil, genre Casimir à Lilliput, soit un petit être, l'usus naturae, je ne sais plus laquelle des deux l'a dit, le petit jouet, le petit mécanisme, le petit animal. Mais c'est le même, en fait. Lui, c'est si on change son échelle, qu'il est soit un monstre gentil, hein, un peu débonnaire, soit au contraire un petit mécanisme de rien du tout. Il y a quelque chose là de réflexion sur la réalité par rapport aux échelles qui va loin. Ah, évidemment, le corps qui peut être attirant peut être répugnant, il suffit d'en changer l'échelle. C'est le même corps.
Et la violence, bon, s'explique par le féminisme, hein, c'est politique, clairement. Son propos est clairement politique.
Mais c'est intéressant que dans sa préface, donc je ne sais pas dans quelles conditions elle a rédigé cette préface pour Oxford Classics, ce qui l'a intéressé, c'est quelque chose de l'ordre de la blessure du corps.
Oui.
C'est le titre qu'elle a donné à sa préface, c'est la blessure. C'est ça qu'elle a retenu. C'est pas forcément ce qui ressort quand on lit Gulliver pour la première fois, la blessure. Il est blessé quand il quitte le territoire, il est blessé par une flèche. C'est pas forcément ce qu'on retient, et c'est ce qu'elle a retenu comme marque traumatique indélébile, comme Ulysse.
Je me souviens que à l'époque où Alain Bonny avait écrit son livre sur Gulliver's Travels, il avait noté, il y avait dans une petite note, il y a très peu de monde qui parle de la blessure.
Oui, exactement.
Si ce n'est Janet Winterson.
Oui, tout à fait.
Effectivement, cette blessure au genou, là, quand il revient, enfin, au dernier voyage. Pardon.
Nathalie, si.
Non, mais je me disais que même le titre, enfin, vous avez fait référence au titre tout à l'heure en mentionnant le fait que c'était l'hybridité de la blessure, etc. Mais Sex and the Cherry, c'est aussi popping, breaking the cherry.
Oui, il y a aussi la. Voilà,
c'est clairement dans le titre. Oui. Enfin, j'étais surprise de voir qu'il y avait toute cette métaphore, l'utilisation des. Agrumes et autres fruits qui apparaissent même sous forme des images.
Oui.
Donc ce jeu sur les symboles que l'on peut trouver aussi dans Gulliver's Travels et les signifiants est présent là avec leur dimension innocente ou au contraire plus sexuée.
C'est ça. Voilà,
c'est intéressant.
Y compris à inclure donc des dessins.
Alors la blessure, c'est intéressant parce que c'est ce qui à la fois évidemment altère le corps, mais qui permet de s'identifier. Paradoxalement, c'est Ulysse se fait reconnaître par la trace de la blessure. Et donc ce qui peut être à un premier niveau vu comme une modification du corps qu'on reconnaît, devient en fait la marque même qui permet de le reconnaître, de l'identifier. C'est comme ça que la servante reconnaît Ulysse quand il revient, c'est par la blessure qui est à la chasse, qu'il avait subi plus jeune. Et là, finalement, si j'ai bien compris la problématique de Whittinson, mais peut-être pas, c'est un héros moderne, au sens justement où il a besoin. Le héros moderne, c'est celui qui, blessé, a besoin de mettre des mots sur sa blessure.
Oui, c'est celui qui éprouve.
Oui.
Hein, elle oppose Gulliver, qui est uniquement observateur dans les premiers livres, et Gulliver qui va se retrouver à éprouver chez les Winans sa mortalité, sa conscience, etc. Et elle le lit comme à ce moment-là un split, une fissure dans. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il devient plus un personnage, qui prend une dimension un petit peu plus romanesque aussi. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas la spécialiste de Swift.
Non, mais si. Mais comment on peut faire à la fois Mickey et ça, quoi. C'est fascinant. Comment on peut, avec le même matériau, on peut arriver à Mickey ou, tout en étant dans un rapport assez juste, quand même, au texte. Ou à ça, c'est donc bien que le texte a des, comment dire, des aspects complètement contradictoires. En lui, c'est à la fois quelque chose de noir et de drôle, d'enfantin et de terriblement démoralisant ou violent, tout en étant drôle, tout en étant grand guignolesque, mais monstrueux. C'est à la fois enfantin et monstrueux. D'autres...
C'est un peu la caractéristique aussi des contes de fées, ça.
Oui, c'est
enfantin,
vrai.
Un enfantin, un monstrueux, au même moment. Ouais. Et d'ailleurs, il y a toutes les adaptations de Disney qui dérivent de contes de fées, qui sont dénaturés et retranscrits ou reproduits dans un langage complètement différent.
Oui. Les contes de Grimm et de Perrault sont assez terrifiants. Mais avec une fonction didactique. Il n'y a pas forcément là. Enfin, c'est plus de provocation, si j'ai bien compris, que de didactisme.
Oui, il y a un petit côté didactique dans le
féminisme.
Le côté de montrer que le genre, après tout, c'est pas juste des catégories, etc. Que c'est plus souple, que ça, c'est plus fluide.
Personnellement, j'ai pas pu m'empêcher de vraiment penser à Rabelais.
Ah oui, elle le cite.
Vous avez lu les passages auxquels vous avez fait, sur lesquels vous êtes arrêté, etc. Vraiment, c'est très rabaisien. Je pense au livre 4 en particulier. Il y avait vraiment pour moi des parallèles assez évidents, bien entendu, pas pour ce qui concerne le féminisme.
Oui, elle cite Rabelais, elle cite Voltaire. Lewis Carroll aussi, mais plus là pour le côté des changements d'échelle aussi.
Oui.
Je pense voir ce à quoi Colin faisait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est peut-être un féminisme tellement offensif dans les multiples sens de ce terme-là, d'ailleurs, offensif et polysémique, mais qui pourrait peut-être avoir un effet contre-productif de la même façon que nos soviets n'ont pas été interprétés aux États-Unis de la façon dont ils avaient été pensés par leurs créateurs. Là, peut-être que justement, et ça c'est un problème commun à plusieurs des phases et des vagues du féminisme, mais là peut-être que ce féminisme si offensif, si gaiement castrateur, on va en effrayer plus d'un également.
Alors en même temps, c'est contrebalancé. Il y a vraiment deux narrateurs. Moi, j'ai beaucoup insisté sur la Dog Woman, mais il y a Jordan. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire du voyage. C'est beaucoup plus onirique. Beaucoup plus rêveur, c'est donc ça contrebalance quand même la violence punitive de la satire juvénalienne et vraiment dans la tradition juvénalienne de punir. Donc c'est contrebalancé, c'est quand même assez. Je vous invite du coup à vous faire une idée en le lisant. En plus, il est pas très long.
Comment c'est traduit en français le titre ?
Ils ont traduit Le sexe des cerises. Ce qui ne fait pas la place évidemment à l'idée et au processus du coup.
Et au processus parce que justement le processus de blessure et fond est très intéressant parce qu'on a là la blessure, mais cette blessure qui porte des fruits et qui transforme.
Voilà.
Qui vraiment transforme, change la nature en autre chose.
Il y a peut-être une attirance du féminisme britannique pour le conte, la forme du conte. Je pense à Angela Carter, par exemple.
Oui, oui.
C'est
ça va rappeler un peu ça comme
Angela Carter.
Oui.
Donc la forme du conte, finalement, semble être un vecteur intéressant parce que justement elle offre un type de fiction qui permet plusieurs niveaux de signification.
Oui, et Winterson l'utilise, hein, là c'est Grimm, mais il y a aussi, elle utilise la mythologie, le conte.
Oui, Anna.
Ah oui, pardon. Je terminais, c'était sur cette histoire de bon, pardon, d'abord, toutes les deux, vraiment d'être arrivées après la bataille, donc ça va être très, très général. Mais je voudrais peut-être, j'étais très intéressée. Enfin, par la discussion en l'occurrence, si ce n'est par vos papiers, encore excusez-moi, mais je les écouterai en podcast. Parce qu'a dit Jean tout à l'heure sur le statut de la fiction, et c'est une question naïve d'histoire de la littérature, hein, mais tu as dit quelque chose comme le mensonge était amoral à l'époque, vous ne pouvez pas dire comment t'es. Et ma question est, quand est-ce que le mensonge est devenu amoral en fiction? Parce que justement, enfin, depuis, j'allais dire, bah, l'entière britannique, évidemment, au moins le Moyen-Âge, si ce n'est avant, mais on a à la fois les tales, les fables, les romances, sans parler des rêves ou des allégories, et les tales et les contes en particulier, et le rêve aussi, qui sont des formes ouvertement fictionnaires, entre guillemets.
Voilà, justement, ils ne se donnent pas comme réaliste.
Et puis il y a des romances qui sont pleins de géants et de monstres verts. Et puis Great Knights. Enfin, je veux dire, depuis que le monde est monde, il y a des formes qui surgissent comme ça. Et que le XVIIe siècle, avec les romances, en particulier la littérature populaire, n'avait absolument pas besoin de justifier comme étant justement romancé. Et pas tout ce paratexte en disant on m'a donné, c'est vrai, je suis allé là, vous pouvez vérifier, etc. Donc ma question était, est-ce qu'il y a un moment là, peut-être, je sais pas, à ce début du 18e, où le mensonge change de statut et ce qu'on pouvait faire entre guillemets en fiction auparavant devient illégitime. Et je me posais juste cette question.
Ce que tu me dis, ce qui change, je pense, c'est le fait que la fiction se pare du réalisme et fasse passer par autre chose. Quand on lit une romance, on n'est pas censé y croire. Par contre, quand on lit Robinson Crusoe, on est au moins censé se poser la question de savoir si ça s'est passé. C'est ça qui pose problème. C'est le mensonge de la fiction réaliste qui n'admet pas du roman, voilà, du novel, voilà, du novel. Oui. Enfin, la crise du roman en France, c'est un peu la même chose aussi. Hein. C'est quelque chose qui n'avoue pas, tu vois, on peut le dire ouvertement sa nature fictionnelle. Quand on commence à déguiser ça avec le réalisme, ça pose problème.
Si on regarde les préfaces du début du siècle commencent à dire ceci est vrai, et ce n'est que dans les années 1740, avec Fielding, qu'on commence à dire voilà, je vous explique ce que je veux faire, c'est-à-dire j'ai fondé un nouveau genre, une new province of writing, de nouveau, et donc ça va reposer sur les paramètres suivants, sur le contrat suivant. Mais avant, non, c'est-à-dire que une histoire qui concerne quelqu'un qui concerne quelqu'un comme vous, lecteur, qui habite à Londres aujourd'hui, je ne peux pas la raconter avec une légitimité critique et esthétique avant Fielding. Même Defoe, il va chercher l'histoire de ce navigateur Alexander Selkirk pour écrire son premier roman. Il va chercher les biographies de prostituées ou de criminels pour écrire Moll Flanders, ou les autobiographies confessionnelles, spirituelles. C'est là qu'il va, que c'est ça le creuset du roman. Et un peu plus tard dans le siècle, vers le milieu du siècle, un romancier va pouvoir dire « Voilà, c'est un genre littéraire. J'ai fait un genre littéraire qui s'appelle, il est nouveau, s'appelle novel. » Et donc ça repose sur telle règle du jeu, comme il y a la règle des trois unités au théâtre, comme il y a les règles de la rime en poésie. Voilà, voilà la règle du jeu. Mais jusque Defoe et Swift, on n'est pas dans la fiction comme ayant une dignité critique. La fiction, c'est un écart par rapport au réel, mais ça n'a pas de dignité critique. C'est pour ça que quand nous lisons aujourd'hui, il faut faire l'effort. La plupart des romans étaient d'ailleurs anonymes, hein. Ils n'étaient pas revendiqués comme l'œuvre d'un auteur. Il faut faire l'effort de s'imaginer quelqu'un qui s'adresse à un public en essayant de jouer avec cette notion de vérité et de mensonge, sachant que s'il dit d'emblée que c'est une histoire qui est née dans son cerveau, il perd la légitimité littéraire. La légitimité littéraire, c'est Addison, c'est la poésie épique. C'est
Problème que le théâtre
n'a pas, mais que le roman, comme genre non noble, va avoir longtemps. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce que le roman est un genre noble. Quand on parle du roman, on pense à Henry James, on pense à Faulkner, on pense à Balzac, etc. Donc il y a un effet d'optique a posteriori qui fait que voilà, quelqu'un qui écrit des romans du XVIIIe siècle, il s'inscrit dans un genre noble, pas du tout. Il s'inscrit dans un genre paralittéraire, méprisé, ignoré, on ne signe pas, à tel point que certains auteurs qui écrivent d'autres types de textes les signent, mais ne signent pas les romans qu'ils écrivent. C'est un petit peu comme si, je sais pas, un critique de cinéma... des cahiers du cinéma ou de positif, je ne sais pas si ça existe toujours, faisait un film de télé-réalité. Il sentirait qu'il sort un peu de son créneau. C'est un, comme a été la BD au début, comme, voilà, la paralittérature.
C'est un petit peu le problème que se posent les critiques vis-à-vis de la littérature américaine en se demandant quel a été le premier roman américain. Qu'est-ce qui a marqué le début de la littérature? Et je crois, enfin, je ne sais pas, mais bon, au XVIIIe siècle, la grande partie du XVIIIe siècle, il y a des autobiographies, il y a de la littérature religieuse, mais il n'y a pas de roman en tant que tel, quoi, jusqu'à 1820-1825. Et le vrai roman, c'est Melville, c'est Hawthorne, etc. Un roman qui se définit et s'assume.
Voilà. Justement, la première phrase de Moby Dick, c'est « Call me, Ishmael ». C'est-à-dire, voilà, le pacte de fiction, il est là.
Non,
c'est-à-dire,
« My name is Ishmael ».
Non, « Call me, call me ». Voilà, hein, on va se mettre d'accord, c'est comme les enfants qui jouent, hein, « Je serai la princesse et toi, tu serais le... »
Il disait que...
Voilà, hein, « Call me, Ishmael ».
Ce « Call me », c'est tout, parce que c'est « mettons », en traduction, ça pose énormément de problèmes. Certains traduisent par « mettons, je suis Ishmael », « mettons », et d'autres... Au contraire, appelez-moi Ishmael. En fait, un cormier qui est à la fois le... Donnez-moi ce nom-là, mais peut-être, si ça se trouve, mon nom est celui-là.
Oui, tout à fait.
Okay. Enfin, c'est un débat de traducteur acharné depuis des années.
Oui. Et où arrive le picaresque dans cette lignée, alors, du coup? Puisque là, on a bien quand même...
Ça vient d'Espagne, 16e, 17e siècle.
Non, mais ça, je sais, mais en termes de légitimation de la fiction réaliste, ça se passe comment?
Mais le picaresque, il est acclimaté en France et en Angleterre. C'est-à-dire qu'on utilise certains schémas du picaresque pour les introduire dans le roman. C'est ce que fait Smollett, par exemple, c'est ce que fait Le Sage en France. C'est-à-dire qu'on utilise l'épisodicité du picaresque, c'est-à-dire le fait qu'un personnage lui arrive des tas d'aventures. On utilise ce schéma pour l'introduire dans le roman. Sauf que dans le picaresque, il n'y a pas vraiment de roman, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. La fin est totalement aléatoire, une sorte d'apocope, ça se termine là, mais ça pourrait se terminer autrement. Hein, c'est un gueux, le picaro, il raconte son histoire, il vole un cheval, il va dans une auberge, etc. Mais il n'y a pas vraiment de construction avec une signification, c'est-à-dire le but, c'est un texte subversif d'un exclu qui raconte les mésaventures qu'il a. Et les romanciers, justement, vont utiliser ce répertoire-là, comme ils vont utiliser l'autobiographie confessionnelle, que tu connais bien, qu'ils vont utiliser la biographie, ils vont utiliser le conte, pour, avec tout ça, dans ce creuset-là, faire du roman. Mais le picaresque vient d'avant, il vient d'Espagne, et il vient du XVIe siècle.
Aussi, bien sûr,
oui, voilà.
Ça, on est dans le réalisme.
Oui, mais pas dans une optique, enfin, à mon avis, hein, pas dans une optique romanesque, dans une optique de récit, mais de récit épisodique sans structure. Alors que le roman suppose, voilà, on lit un roman de Balzac ou de Dickens, voilà, Great Expectations, pour prendre l'archétype du roman de formation, voilà, il y a une histoire, un début, et puis il y a une morale édifiante. À la fin, il y a quelque chose qu'on en retire, alors que dans le picaresque, on n'en retire rien. Ça pourrait se terminer avant, ça pourrait se terminer après. Ce sont des textes, d'ailleurs, interdits. Hein, que c'est les premiers textes picaresques étaient anonymes et interdits par l'Inquisition. Mais ça a servi, effectivement, ça fournit quand même une trame, parce que c'est en épisode, et c'est surtout à la première personne. Et donc, ça va servir un peu de modèle à des romans à la première personne.
Oui. Si on parle de la question, oui. Si on parle de la question façon de balayer les genres,
oui, les genres
pré-romanesques qui auraient pu légitimer cette question de la fiction, oui, réaliste également.
Et l'extraction populaire du héros.
Tout à fait.
Mais le Picaresque n'est pas vraiment entièrement réaliste.
Non. Mais c'est pour ça que quand Winterson réécrit dans une sorte de pot-pourri générique le texte de Gulliver, il est lui-même un pot-pourri générique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'ex nihilo dans la littérature. En fait, elle réécrit un texte qui est lui-même, qui réécrit les récits de voyage, qui réécrit des récits scientifiques, etc. Donc c'est une réécriture de réécriture dans une sorte de vertige un peu borgésien de textes qui font toujours référence à d'autres textes. Il n'y a pas de texte initial. C'est un dialogue, mais il y a un rapport entre le caractère hétérogène du point de vue générique de Gulliver et ce que vous avez décrit. C'est pas la réécriture féministe explosive d'un texte homogène.
Non.
C'est la réécriture d'un texte qui est lui-même complexe du point de vue générique. Il n'est pas. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons discuté de l'étiquetage au roman. Peut-être cet étiquetage ne rend pas complètement justice à l'hétérogénéité générique d'un texte qui utilise la forme de la littérature de voyage pour faire toute autre chose.
Oui, c'est ça. Ouais, non, mais je pense qu'elle se revendique totalement de l'hybridité générique du texte de Swift au départ.
Bon, avec tout ça, quelle heure est-il ?
C'est-à-dire
ça. Je crois que c'est l'heure de s'arrêter. Non, je ne sais pas, sauf s'il y a d'autres interventions. Je ne sais pas. Bien, écoutez, merci d'abord à nos deux intervenantes. Je vous propose de réapplaudir.
Merci beaucoup.
Et merci à vous tous pour votre présence et cette discussion.